À continuer notre réflexion, la suite de la semaine dernière sur Sans compromis. Alors nous avons vu ensemble quelle a été les réactions de Jésus quand il a été emmené dans le désert par l'Esprit pour être tenté. Le tentateur Satan s'est approché de lui et a essayé de tester Jésus, a essayé de lui montrer certaines choses, certains pouvoirs, certaines facilités que Jésus, bon, Jésus avait le pouvoir, mais Jésus a refusé catégoriquement face à cette tentation de succomber à la tentation. Il a refusé le compromis. On a cité un terme de psychanalyse et il a refusé de transformer ce qui se présentait à lui en disant ben, « tout compte fait, c'est pas bien grave, je suis capable de le faire, faisons-le ». Non, Jésus a refusé le compromis, il a refusé de céder, il a refusé d'accéder à la tentation. Et le verset que nous avons lu est la conséquence de la compromission. À partir du moment où nous acceptons la compromission, nous basculons dans l'acte de péché. Et l'acte de péché, comme nous l'avons lu, qui est considéré comme un crime, mais une séparation entre Dieu, notre Créateur, et nous-mêmes, sa créature. Alors aujourd'hui, nous avons vu l'exemple suprême, si vous me permettez, de voir les réactions de Jésus. Et aujourd'hui, je vais vous inviter à voir quelques personnes dans la Bible qui ont subi cette compromission. Certains sont tombés dans la compromission avec les conséquences qu'il y a eu. D'autres ont refusé la compromission. Commençons par, on va dire, Adam et Ève, ce fruit qui se présentait à eux. Mais est-ce que Dieu a vraiment dit que vous n'avez pas le droit d'en manger? Le Seigneur a juste dit que si on en mangeait, on ferait la différence entre le bien et le mal. Donc, bon, c'est pas une mauvaise chose en soi. Donc, le doute s'installe. Et puis, il y a eu l'acte de péché. Ce n'est pas simplement qu'une pomme, mais c'est ce que ça représentait. L'arbre de vie. D'accord, le Seigneur dit, vous n'en mangerez point. C'était un ordre, un commandement. Et là, Satan est venu et il y a eu acceptation de la compromission. Et puis, nous voyons aussi ce qui s'est passé avec Jacob, Jacob, avec son peuple qui arrive à Canaan, et puis donc ils sont là, cette tribu parmi les peuples aux alentours, et la fille de Jacob sort et elle tombe sur un beau jeune homme, on va dire. Et puis il y arrive un moment où on propose à Jacob un arrangement. Faisons en sorte que nos peuples s'unissent, et puis bon, comme ça, ta fille pourra se marier avec notre fils, et voilà, il n'y a rien de bien méchant en soi, mais le Seigneur ne voulait pas que son peuple se pervertisse. Et là, la compromission s'est présentée. David aussi a succombé à la tentation. Il a, par compromission, la convoitise sexuelle a eu le dessus sur lui. Et après, il s'est compromis encore dans le fait qu'il a participé à l'assassinat du mari de la femme qui l'avait prise. Samson, histoire bien connue de Samson, s'en sont mis à part par Dieu, avaient reçu cet ordre que le rasoir ne devait pas passer sur ses cheveux, sur sa tête. Mais il se sentait tellement fort, Samson, qu'il a donné cette arme à Dalila en disant « Tout compte fait, si le rasoir passe sur ma tête, je perdrai ma force, mais est-ce que tu as vu comment je suis fort ?» Et la force de Dieu s'est éloignée de lui. Il s'est compromis. Il pensait que ça allait être insignifiant, mais il s'est compromis et il a chuté. Pierre, au moment où il se retrouve un peu seul, où Jésus est à quelques heures d'être condamné, d'être jugé, condamné, Pierre a eu peur. A eu peur quand on lui a dit, mais dis-moi, toi, tu n'étais pas avec celui qu'on appelait Jésus. Et là, il a pris peur. Il a eu peur d'affirmer sa foi et il a choisi la compromission en disant non, j'étais pas là. Il a péché. Abraham a failli sacrifier son fils en obéissant à Dieu. Mais il est allé jusqu'à lever la main avec le couteau pour sacrifier son fils et là le Seigneur l'a arrêté, mais il est allé jusqu'au bout. Il n'a pas douté, il n'a pas remis en question la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, tu me sacrifieras ton fils. Tu m'offriras ton fils. Et Abraham est allé jusqu'à presque l'acte, on va dire. Mais il aurait très bien pu dire, mais Seigneur, d'autres enfants, il y en a d'autres. Pourquoi le mien ? Le Seigneur voulait qu'Abraham obéisse et par cette obéissance montrer quel allait être le plan pour Abraham. Abraham, son nom a été changé. Hein. Et puis Joseph, vous connaissez tous l'histoire de Joseph ? Joseph a été courtisé par la femme de son maître, mais il a préféré aller en prison. Il a préféré être jeté en prison plutôt que de coucher avec la femme de son maître. Il n'a pas fait comme David. Il a refusé. La femme était à sa portée, elle était offerte, un cadeau. Il a refusé, si je puis dire, un cadeau. Hein. Un cadeau empoisonné. Il a refusé. Il ne s'est pas compromis. Et puis un dernier exemple. On pourrait en citer d'autres. Hein. David, le petit berger en train de paître le troupeau, le dernier de la bande, hein, le plus petit, le plus faible. L'armée est en face des Philistins, et puis en face de l'armée d'Israël, il y a Goliath se présente. Cet homme de je ne sais pas quelle taille, mais j'imagine qu'il devait être ô combien impressionnant et ô combien fort. Puisque tout le monde avait peur de lui. Et là on dit, mais qui c'est ? Qui dans l'armée va les combattre ? Et puis on va chercher David. David, viens, on a quelque chose à te montrer, on a dû lui dire. Le roi t'appelle. On n'a peut-être pas voulu lui dire qu'il allait se retrouver tout seul devant l'adversaire. Mais bon. Et David y va. Et on dit à David, ben voilà, on a un problème là. Il y a quelqu'un, on a l'impression que personne ne peut le combattre, on a pensé à toi. Et David va y aller. Sans doute, sans aucun doute, il s'est avancé. Il aurait pu dire, ben les gars, allez-y tous ensemble et puis l'union fait la force. Hein. Non, il fallait qu'il y aille. Il n'a pas refusé d'obéir. Il est allé, et vous connaissez la conséquence, il a vaincu Goliath. Il a montré que l'obéissance était 1 000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois plus efficace que le reste, l'obéissance. Parce que quand nous désobéissons, Dieu ne peut plus nous écouter. Nous sommes séparés de Dieu. Il n'y a plus de communication. On dirait aujourd'hui, j'ai rangé mon téléphone, mais enfin il était éteint, rassurez-vous, je n'ai plus de réseau. Je n'ai plus de réseau, il n'y a plus d'antenne, il n'y a plus de wifi. On est tellement accro à ce réseau. Ben, il faudrait qu'on soit accro aussi à la communion avec Dieu. S'assurer qu'on est toujours en réseau, qu'on est toujours connecté. Alors pour différentes raisons, on ne peut plus être connecté. On ne va pas rentrer dans la technique, hein, ni dans la technologie. La batterie est trop faible, hein, on peut extrapoler. On a oublié son code. Ça peut arriver, moi, quand j'ai eu mon premier portable, j'avais oublié mon code. L'antenne est en panne. Il y a différentes raisons. Mais il faut s'assurer d'être connecté. Pour en revenir à notre sans compromis, la compromission, dans notre exemple, c'est vouloir servir de maître. Hein, on est chrétien, on connaît tout cela, le péché, tout ça. On a dit, Seigneur, voilà, pardonne-moi, pauvre pécheur. Et le Seigneur est juste et bon pour nous pardonner. Mais bon, parfois, on a envie d'aimer l'un, puis d'aimer l'autre aussi. Je vais vous donner deux petits exemples. Vous savez que j'aime bien les petites histoires, ça n'a pas changé. Il y a longtemps que je n'en avais pas donné. Un moniteur qui donnait un enseignement biblique à des enfants leur avait lu l'histoire du riche et de Lazare. Le riche avait vécu dans l'opulence, dans la richesse, il manquait de rien. C'est ça l'opulence, il ne manquait de rien. À la limite, même, il ne savait pas quoi faire de ce qu'il avait, sans s'occuper de son âme. À quoi bon ? Puisqu'il avait tout. Le pauvre avait vécu près de Dieu. Le jour de leur mort, parce que inévitablement, qu'on soit dans l'opulence ou dans la pauvreté, à un moment donné, chacun se retrouve devant la mort. Le pauvre s'en alla dans le bonheur du ciel et le riche dans les tourments. Alors le moniteur, après un bref commentaire, demanda à ses petits-enfants, « Alors les enfants, dites-moi, que préfériez-vous être, le riche ou bien Lazare ?» Alors je ne sais pas si... Oui, il y a des moniteurs et des monitrices d'école du dimanche ou du culte des enfants ici. Est-ce que vous avez déjà raconté l'histoire de Lazare ? Alors, si vous ne l'avez pas fait, voilà, vous avez un petit exemple. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, un garçon répondit, « Moi, je veux être riche pendant ma vie et Lazare quand je mourrai. » Vous savez, les enfants, c'est... Il n'y a pas de demi-mesure, c'est on va direct à l'essentiel et tac et tac. Ben, dans sa naïveté, l'enfant exprimait la pensée de nombreuses personnes. Mangeons, buvons, amusons-nous sur la terre et le plus tard possible. Et le plus tard possible, et que à ce moment donné, que Dieu, ben, dans son immense bonté, nous reçoive dans son paradis. Mais vous savez bien comme moi que le calcul n'est pas aussi juste que cela. Dans Galates chapitre 6, verset 7, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Si aujourd'hui je sème des paroles qui vous éloigneraient de la parole de Dieu, vous allez vous en éloigner. Mais que Dieu préserve mes paroles afin que vous aide à vous conduire dans la parole de Dieu. Un deuxième petit exemple, un peu plus funèbre, on va dire. Un athée, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, rempli d'angoisse, était sur le point de mourir. Alors il avait une amie à côté de lui, une athée également, elle cherchait à le rassurer. Que dire dans ces moments-là, que n'aie pas peur, Accroche-toi, chérie, accroche-toi jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'à l'instant T, ou l'instant F de fin. Et Lomoran lui répondit, je veux bien m'accrocher, mais à quoi ? À quoi ? Peux-tu me dire à quoi je vais m'approcher en arrivant à la fin ? Une vie sans Dieu ne peut que conduire à une éternité sans Dieu. Tout ça pour nous rappeler qu'on ne peut pas servir de maître. Nous devons être vigilants à la compromission. On va revenir à cette pensée, une petite analyse. Hein, mon frère, on en a parlé il y a quelques instants la semaine dernière. Ce n'est pas pour vanter, hein, ni pour se servir de cela, mais pour expliquer que à partir du moment où on se laisse, où on a quelque chose en nous, nous savons très bien que ce n'est pas quelque chose à faire, à dire, à penser. Mais à force de la triturer dans son esprit, on arrive à la dévaloriser, à lui enlever son importance, et puis à un moment donné où elle est passée en dessous du seuil de « je ne dois pas le faire », là, je suis en mesure de le faire. C'est ça, en fait. Je l'ai déformé, je l'ai trituré, je lui ai enlevé de sa substance en disant, tout compte fait, ce n'est pas si grave que cela. Je peux dire à mon... Vous savez, une petite phrase, une petite chose, un petit acte. On dit petite chose, petit péché, il n'y a pas de petit péché. Je peux dire à mon frère, ah, de toute façon, toi, tu m'énerves. Et encore, on peut dire des choses plus, ou des pensées. Puis en disant, bon, c'est pas, je vais pas lui dire pardon, c'est pas grave, ça passera. Non. Non. Il faut que nous soyons attentifs à ne pas avoir ce genre de raisonnement. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de petits écarts. Voilà ce qui est dangereux pour le chrétien. Voilà ce à quoi nous devons veiller. À l'exemple de Jésus, à l'exemple d'Abraham, comme nous l'avons cité tout à l'heure, de Joseph, de David, il vaut mieux être critiqué, jugé que de faire comme Pierre. Non, je ne suis pas chrétien. Non. Enfin, je sais plus. Et là, à ce moment-là, je pense que le Seigneur, il doit tourner la tête en disant, mais c'est pas possible. Voilà la compromission. Voilà la compromission. Parfois, nous le faisons volontairement. Parfois, nous le faisons involontairement. Alors, j'ose espérer qu'on le fait plus facilement involontairement que volontairement. Mais bibliquement, il est possible de refuser ce compromis. C'est possible. Mais Satan connaît nos faiblesses. Hein. Regardez, à Jésus, il a essayé différents moyens. Hein. Du plus banal au plus sophistiqué, je dirais. Toujours en présentant la chose comme pas grave. C'est pas grave. Mais Satan connaît nos points faibles. Il sait là où nous avons une certaine tendance à la compromission. Et il va venir travailler là-dessus. À nous, à demander à Dieu de combler nos brèches, de nous donner la force, de nous donner la pensée de Dieu. Parce que nous ne nous croyons pas forts par nous-mêmes, parce que notre force vient de Dieu seul. Elle n'est pas en nous. Et si Satan ne réussit pas à nous faire tomber dans un domaine, il va aller voir dans un autre. Il va essayer. Mais il l'a fait avec Jésus, il a essayé 3 fois avec Jésus. Alors il peut essayer dans notre vie personnelle, dans notre travail, dans notre famille, dans notre, au niveau de notre corps, pour que nous soyons amenés à dire « Seigneur, mais t'es où ? T'es où dans ce qui m'arrive ?» Et le Seigneur te dit « mais je suis là, hein. Je suis là, n'aie pas peur, je suis là. » Je me trompe ou parfois on réagit comme ça ? « Bon, Seigneur, je vais faire ça, ça va aller. » Ou même pas, on dit même pas « Seigneur, je vais faire ça, ça va passer. » T'inquiète Seigneur, je gère. Non, t'inquiète Seigneur, je gère rien du tout. Je gère rien du tout. Parce que ce que je vais penser faire, ce n'est pas du tout ce que le Seigneur voulait que je fasse. N'oublions pas cette pensée de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il prévoira aussi le moyen d'en sortir, afin que nous puissions la supporter, afin que nous ne soyons pas là en disant « bon, en train de nous compromettre ». Et le Seigneur ne veut pas que nous nous compromettions. Je regarde peut-être mon épreuve actuelle, peut-être que je traverse des épreuves en ce moment. Peut-être je peux les voir comme une punition, comme quelque chose d'insupportable, d'injuste. Je ne mérite pas. Seigneur, je ne mérite pas ce qui m'arrive. C'est pas là la question. Savoir je mérite pas. C'est Seigneur, je te fais confiance. Je ne sais pas pourquoi cela m'arrive, mais je sais que tu es tout autour de moi. Et toi, tu me protèges. Et nous l'avons déjà expliqué, le Seigneur n'est pas là pour... Vous savez ce qu'on dit, le croche-pied, hein ? Tu avances, tu regardes droit devant et quelqu'un tend la jambe et pouf, tu tombes. L'artiste est parfois amené à briser son œuvre pour en faire une plus forte. Parfois, le Seigneur a besoin de briser notre volonté parce que nous sommes têtus. Il paraît que nous ne sommes pas têtus. Mais moi, je dis si, nous sommes têtus. Nous sommes tous têtus. Alors, je ne sais pas si ce sont les filles ou les garçons les plus têtus, mais nous sommes têtus. Parfois, on dit non, c'est ça que je veux. Et je l'aurai. Oui, mais est-ce que le Seigneur, c'est ça qu'il veut ? Combien de fois on se dit, mais ça, c'est bien, ça. C'est ça qu'il faut. Il me faut ça. Parce que ça, c'est super. Ça me va très bien. Mais Seigneur, il pensait justement que c'était ça qui tirait très bien. Parce que c'est ça qui va te permettre d'avancer. C'est pas par là. Nos propres efforts ne nous permettront jamais de résister à la tentation. Jamais. Parce que si nous voulons résister par nos propres moyens, nous allons entrer en compromission. C'est pas une fatalité, hein. C'est pas une fatalité de pécher en disant « Oh, voilà, comme dirait l'autre, ça y est, je suis foutu. » Ça, je ne voulais pas le faire, de toute façon, forcément, je vais le faire. Hein. C'est obligatoire. Non, ce n'est pas une fatalité. Là, quand Satan a dit à Jésus, « T'as vu, c'est des pierres, fais-toi un morceau de pain avec, c'est rien. C'est quoi un morceau de pain pour toi ? » Dans quelques temps, tu vas avec 5 pains, tu vas nourrir 3 et 5 000 personnes. C'est quoi un morceau de pain ? C'est rien. Jésus dit, « Non, même un morceau de pain. » Même un morceau de pain, je refuse que cette image-là servent la gloire de Satan. Donc ce n'est pas une fatalité, le péché. Dire non. Le Seigneur a dit que me donner les moyens, comme nous venons de lire, 1 Corinthiens 10, verset 13, notez-le, 1 Corinthiens 10, verset 13. Les tentations ne viennent pas de Dieu. Hein, Seigneur, ne nous laisse pas succomber à la tentation. Tu peux dire, Seigneur, tous les jours tu me tentes, arrête, je ne peux pas. Arrête. Mais Dieu, ce n'est pas un Dieu sadique. Il ne veut pas que nous tombions. Par contre, il veut savoir s'il peut compter sur nous. Quand il a des grandes choses à faire à quelqu'un, à demander à quelqu'un, le Seigneur, il va te demander une toute petite. Toute petite. Parfois insignifiante. Si tu passes à côté, le Seigneur m'a dit, bon, il n'est pas encore prêt. Comme dit la pub, tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt à savourer le bon gâteau. Tu n'es pas prêt. Il faut attendre. Donc le Seigneur va te redonner une petite épreuve. Est-ce que tu vas comprendre que ce que je mets devant toi, c'est un test? Et si tu le passes avec succès, le Seigneur va dire, ok, il a compris. Et s'il a compris, on va aller plus loin. On va monter une marche. Mais vous savez, Dieu est exigeant, hein? Dieu est exigeant. Il veut que nous soyons parfaits. Il veut que nous soyons sans compromis. Nous avons parlé beaucoup de compromission dans la parole de Dieu. Là, nous avons parlé de compromission pour nous-mêmes. Tournons la tête, écoutons la radio. Qu'est-ce qu'il y a eu comme compromission ces derniers temps ? Vous savez de quoi je parle ? Mariage pour tous. Alors, on a une liste de super bonnes raisons. Je m'étais dit, je ne voulais pas en parler. Parce que, bon, comme c'est sujet à manifestation. Mais c'est une compromission. C'est pas parce que il y a toutes les bonnes raisons que faut qu'on en arrive là. Ouais, mais tu comprends, bon, la liberté aujourd'hui, on est en 2013 quand même, bon, demain tu pourras te marier avec ton chien, enfin, j'exagère. Mais, bah, demain, pourquoi on pourrait pas être polygame? Bah, qu'est-ce qui empêcherait? Bah, on peut être aussi bien heureux avec deux personnes qu'avec une. Non, mais la compromission. C'est ça la compromission. C'est trouver toutes les bonnes raisons pour dire, bon, il faut le faire. Bon, Jean-Michel, arrête. Il n'y a pas de... Une autre image, je vais terminer là-dessus, mais ce n'est pas... Tan, dimanche prochain, on termine dessus, parce qu'on va voir, on va rentrer dans les armes. Les armes dont dispose le chrétien pour ne pas se compromettre. Ça, c'est très important. Parce que quand on est malade, quand on dit « Docteur, j'ai mal à la gorge. » Ok, bah t'as mal à la gorge. Ok. Je note, t'as mal à la gorge. Non, non. Il va dire, bah voilà, faut faire ci, tu prends ça et tu verras, ça va passer. Et la prochaine fois, quand tu sens que, prends ça pour éviter que ça revienne. La semaine prochaine, nous allons voir quelles sont les armes que le Seigneur met à notre disposition pour ne pas se compromettre. Mais juste aujourd'hui, j'aimerais terminer sur cette pensée. Il n'y a pas de bonnes actions pour équilibrer les mauvaises. Comprenez-moi bien. Il n'y a pas de bonnes actions pour équilibrer les mauvaises. Si à un moment donné, j'ai péché. Je ne vais pas me lancer dans des bonnes actions pour dire « Seigneur, tu as vu, je me suis rattrapé. » Non. C'est faut régler le problème du péché. Pour pouvoir continuer. Sinon, c'est construire notre foi sur un parpaing du sable, un parpaing du sable, un parpaing du sable, et ça ne tient pas. Parce que ça sera soit du sable, soit du roc, soit du parpaing. Et c'est ce que je nous souhaite, hein, parce que je me mets dans l'eau, hein, je me rattache à vous. Hein. C'est ce que je nous souhaite à tous, c'est que nous puissions construire notre vie chrétienne sur du roc. Le roc, c'est le Seigneur, c'est la parole qui nous a laissé. Et sans vouloir anticiper sur dimanche prochain, effectivement, la prière est une arme. C'est une arme redoutable, la prière. Redoutable. Pour eux. Que nous ne tombions pas dans le crime, dans le péché, que nous ne soyons pas séparés. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons séparés de lui. Le Seigneur est triste quand nous nous séparons de lui. Il pleure. Il pleure et il attend juste une chose, c'est que on fasse appel à lui. Parce que même dans la compromission, le Seigneur, il est là, hein. Il est tout autour. Hein. Et il faut savoir l'écouter. Jean-Michel, attention, tu vas faire une connerie. Tu fais comme tu veux. N'oublions pas que le Seigneur nous a donné 100% de liberté. Nous ne sommes pas esclaves, hein. Nous ne sommes pas esclaves, nous sommes 100% libres. Alors, libres de nous compromettre? Non. On ne va pas rentrer dans ce genre de notion de liberté. Hein, on ne va pas se faire mal à la tête là-dessus. Mais le Seigneur nous a créés libres, hein, ne l'oublions pas. Et le Seigneur est avec nous. Et si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous ? Amen.